Bienvenue dans Doctorat Mode d'emploi, la mini-série conçue pour t'accompagner à chaque étape de ton parcours doctoral. Dans chaque épisode, on te donne des conseils concrets, des retours d'expérience et des outils pratiques pour t'aider à naviguer dans l'univers parfois mystérieux du doctorat. Que tu sois en train de rédiger ton projet, de chercher un directeur ou une directrice de recherche ou de préparer ta soutenance, cette série réalisée par Megda Bentou de Why a PhD et Émilie Doré de Réussir sa thèse est faite pour toi. Installe-toi confortablement, on y va.
Bonjour Émilie.
Bonjour Megda.
Alors, qu'est-ce qu'une directrice ou un directeur de thèse ?
Alors, une directrice ou un directeur, d'ailleurs, on ne les appelle pas toujours comme ça. Parfois, on peut les appeler directeur de recherche, directeur d'études. Puis dans d'autres pays, on les appelle promoteur, promotrice ou superviseur. Enfin, c'est finalement un peu toujours la même chose. C'est l'encadrant d'une thèse. Donc, c'est une personne, c'est un enseignant-chercheur qui a de l'expérience en France, donc qui a une habilitation à diriger des thèses, et qui va guider le travail du doctorant, l'accompagner, le valider aussi, avant qu'il passe en soutenance, tout au long de ces années de thèse. Donc c'est vraiment en fait le partenaire privilégié, le partenaire intellectuel du doctorant ou de la doctorante.
Et quels critères prendre en considération pour choisir le bon ou la bonne directrice de recherche ?
Il y en a plusieurs et selon, je dirais, le caractère de chacun, on peut ne pas avoir les mêmes critères. Je vais t'en citer un, par exemple, le critère de la renommée. Je pense que souvent, on se dit, ça serait bien d'avoir tel ou tel directeur de recherche parce que je l'adore, il est super connu, c'est vraiment une pointure dans cette discipline. Tu sais, souvent, quand on s'inscrit en thèse, pas toujours, mais souvent, on admire quelqu'un de cette discipline-là, et c'est vrai qu'on peut rêver de faire la thèse sous cette direction. Alors moi, je dirais pourquoi pas, hein, faut pas se censurer, faut essayer, faut écrire à cette personne, mais il faut savoir qu'une personne qui est renommée, c'est une personne qui va être très occupée et très demandée. Et c'est pas forcément parce qu'on est un excellent chercheur, très engagé, très communicant, qu'on va être un excellent encadrant de thèse, qui est quand même très différent. Un encadrant, un bon encadrant, il sait se rendre disponible, et c'est pas forcément les personnes qui ont la plus grande renommée qui savent le mieux se rendre disponible. Donc, c'est vrai que ça peut être très bien sur le CV d'avoir un encadrant très renommé, mais attention avec ce critère-là. Alors, un autre critère qu'on peut aussi envisager, c'est qu'il faudrait que je trouve un encadrant qui travaille exactement sur mon sujet, de mon projet de thèse. Voilà. Sur le même sujet. C'est pareil, c'est un critère qui, bon, a priori, me semble rationnel. Hein. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir de quoi parler avec son encadrant, il faut qu'il s'y connaisse. Donc, très bien, je dirais que c'est un critère absolument indispensable. Mais là aussi, figure-toi qu'il y a un petit piège. Parce que parfois, quand on cherche un encadrant qui travaille exactement sur le même sujet, ça peut être un peu étouffant. C'est-à-dire que lui, il va avoir son idée sur ce sujet-là et on peut se retrouver un peu dominé ou un peu utilisé et ça peut enlever un petit peu de liberté. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un encadrant qui a exactement le même sujet. Par exemple, il peut travailler sur le même sujet, mais dans une autre ère culturelle ou quelque chose comme ça. Donc, aller apporter un petit peu de distance entre lui et vous, ça peut aussi apporter un petit peu d'oxygène à la relation et un peu plus de liberté. Et il peut quand même être de très bons conseils. Voilà, donc après, il y a d'autres critères. Est-ce que je préfère un jeune encadrant disponible ou un encadrant plus expérimenté, mais qui sera peut-être un peu moins disponible? En fait, tout ça, ça dépend. C'est une question d'affinité. Et je pense que le premier vrai et seul critère, c'est l'affinité à la fois intellectuelle et relationnelle. C'est-à-dire que même si l'encadrant travaille pas très 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 précisément sur le même sujet, ou même s'il n'est pas ultra renommé, il peut être un excellent encadrant si on est en fait en, en synergie, on est en harmonie sur qu'est-ce qu'on attend de cette thèse et comment on va travailler ensemble. Il y a aussi une question un peu de ces deux caractères. On n'a pas tous le même caractère, il faut que les caractères soient compatibles. Donc, il vaut mieux connaître la personne avant. N'hésitez pas à aller regarder même des vidéos YouTube de cette personne pour la voir, si des fois dans des colloques, il y a des colloques qui ont été enregistrés ou quoi, pour la voir parler et vraiment avoir un aperçu avant de décrire à la personne.
Alors imaginons que je trouve la bonne ou le bon directeur de recherche, ça y est, je suis sûre de mon choix. Comment je m'y prends? Est-ce que j'envoie un email? Est-ce que j'utilise un autre canal de communication? Comment on fait pour aborder un potentiel directeur ou une potentielle directrice de thèse?
Oui, ça passe par l'email, hein. Souvent c'est le premier contact. Donc un email, pas trop long, mais le mieux c'est d'avoir en pièce jointe déjà un projet ou un pré-projet, une page, deux pages. Mais dans l'email, on se présente, on dit qui on est et ce qu'on veut. Tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il faut savoir que les enseignants-chercheurs sont débordés. Ils sont complètement débordés et ils reçoivent beaucoup d'emails. Donc, le mieux, c'est d'être très clair. Dans le sujet du mail, demande d'encadrement pour une thèse. Tout de suite, la première phrase, c'est « Je suis un tel ou une telle. Je sors du master ceci ou cela. » Ou bien « J'ai une pratique professionnelle ou une expérience professionnelle de tel domaine. » Et « Je souhaite réaliser une thèse sur tel sujet. » Voilà, c'est très clair. C'est la première phrase. On sait tout de suite de quoi il s'agit. Si ça ne l'intéresse pas, il ne continuera pas le mail. Mais si ça l'intéresse, il va continuer. Et donc, on va résumer son projet de thèse en deux paragraphes, trois paragraphes. Donc, il faut vraiment avoir une qualité de synthèse dans ce mail. Et il faut savoir très clairement ce qu'est notre projet de thèse. Voilà. Après, on peut dire, voilà ce que je propose, mais bien entendu, je peux en discuter avec vous si vous avez des remarques, des conseils, des améliorations à apporter à ce projet. Et on demande un rendez-vous. Voilà, donc on finit en demandant un rendez-vous, soit téléphonique, soit en personne, pour voir si ça fonctionne, si ça match.
Justement, tu l'as un peu abordé, hein, la thèse s'inscrit sur un temps long, il y a un binôme qui se crée avec cette directrice ou ce directeur de recherche. C'est important de partir sur des bonnes bases. Quels sont les sujets importants à aborder dès le début?
Le sujet important, c'est comment on va travailler ensemble. Parce que je vois trop de doctorants qui ont des mauvaises surprises. Par exemple, ils se rendent compte que l'encadrant ne répond pas au message, ou que pour lui, un rendez-vous par an, c'est largement suffisant, par exemple, alors que pour eux, bah, ça ne l'est pas. Donc, avec bien sûr diplomatie et courtoisie, dans le premier rendez-vous, ça sera de voir en fait à quoi va ressembler cet accompagnement. Est-ce que on se donnera des rendez-vous tous les mois, tous les trimestres, tous les ans? Est-ce que l'encadrant va exiger de relire un texte au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an? Est-ce qu'on peut le contacter juste pour poser une question? Ou est-ce qu'on peut le contacter seulement quand on a un texte à faire relire? Est-ce qu'il va nous aider pour rechercher des financements ou pas? Vraiment, il faut essayer de voir comment cet encadrant s'imagine son rôle et quels sont ses besoins à lui. Par exemple, il y a certains encadrants dont le besoin primordial, c'est qu'on leur fiche la paix. Je suis désolée de le dire comme ça, mais justement, comme ils sont débordés, ils ont envie d'un doctorant qui avance un peu tout seul. Ça, il faut le repérer assez vite, parce que peut-être ça vous correspond et vous vous dites tant mieux. Comme ça, j'aurai plus de liberté, mais peut-être que ça vous correspond pas du tout. En tout cas, il faut être au courant dès le début de ça. Au contraire, il y a des encadrants qui vont être très tatillons, pointilleux, qui vont vraiment suivre de près leur doctorant. Et ça peut convenir très très bien à certains doctorants et pas à d'autres. En tout cas, il faut pas hésiter à aborder ces sujets-là. Je sais qu'on peut hésiter, parfois on peut simplement parler de choses purement intellectuelles au premier rendez-vous, parler de son sujet, c'est tellement plus gratifiant. Et puis ne pas oser aborder des questions de méthodologie du travail entre nous, quoi. Et ça serait très dommage.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à nous suivre sur whyaphd.com et réussirsathèse.com. À très bientôt !